Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Nous rejoindrons dans un instant nos envoyés spéciaux à la frontière turco-syrienne, non loin de la ville de Ras El Ain, ville sous contrôle turc depuis la fin de matinée, selon Ankara, ce que démentent les forces kurdes. Précision de Mathieu Mondeloni et Marc Garvenès. À la veille du second tour de la présidentielle tunisienne, reportage à Tunis auprès des électeurs d'Ennahda qui voteront pour le juriste Kais Saïd, opposé à l'homme d'affaires Nabil Karoui. L'homme arrêté hier à l'aéroport de Glasgow est-il bien Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué sa famille et en cavale depuis 8 ans? Correspondance en Écosse de Cécilie Corso et retour sur un emballement, une accélération médiatique avec Benoît Bouscarel. Également au sommaire, les derniers développements dans le projet pharaonique d'agrandissement de la gare du Nord à Paris, et puis la Bulle Écho qui, ce samedi, pose la question de la taxation des multinationales. À Paris comme à Berlin, les organisations pro-kurdes se mobilisent ce samedi contre l'offensive d'Ankara qui cible les effectifs kurdes qui contrôlent une partie du nord syrien. Ce matin, la Turquie a démenti avoir pris pour cible un site occupé par des troupes américaines. Selon Mevlüt Cavusoglu, le ministre turc des Affaires étrangères, les forces turques n'ont pas l'intention de s'enfoncer au-delà de 30 km dans le territoire syrien. Son collègue en charge de la défense fait lui état de 228 morts parmi les miliciens kurdes depuis le début de l'offensive, quand l'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre 23 membres des forces démocratiques kurdes et 6 combattants pro-turcs tués. Selon Ankara, je vous le disais en titre, l'armée turque aurait pris le contrôle de la ville de Ras El Ain, ce que nient les forces kurdes. Bonjour Mathieu Mondeloni.
Bonjour Mathieu.
Mathieu, vous n'êtes pas loin de cette localité. De quelles informations disposez-vous ?
Eh bien écoutez, des mêmes que vous effectivement, c'est le ministre de la Défense turque qui a annoncé tout à l'heure que cette ville de Ras El Ain avait été prise par les forces turques. Ça a été immédiatement démenti par les forces kurdes, également dans un communiqué envoyé aux journalistes, preuve qu'il se joue également une bataille de la communication. Ce qu'on peut vous dire, nous, c'est, on le voit juste devant nous, c'est que les bombardements se poursuivent tout autour de Ras El Ain. On est à quelques centaines de mètres seulement et on voit et on entend les frappes aériennes, les tirs d'artillerie qui ne cessent pas depuis ce matin, provoquant d'immenses colonnes de fumée noire qui s'échappent de plusieurs quartiers. L'objectif de ces bombardements, c'est de couper les axes logistiques des combattants kurdes, d'isoler dans la ville ceux que les Turcs appellent des terroristes. D'ailleurs, des combats rapprochés se déroulent déjà dans certaines rues. Nous avons réussi tout à l'heure, Mathieu, à pénétrer dans la partie turque où se trouvent ces combats et nous avons pu voir des militaires lourdement armés. Nous avons surtout entendu de nombreux tirs d'armes automatiques juste à côté de la frontière, matérialisés ici par une simple voie de chemin de fer et quelques barbelés.
Et Mathieu, vous nous confirmez que des combats au sol sont en cours, l'offensive turque se poursuit et même s'intensifie malgré les pressions internationales.
Exactement, les Turcs n'entendent pas renoncer, n'entendent pas se laisser impressionner. C'est ce que nous disait tout à l'heure le député AKP, député de la majorité élu dans cette région. Nous sommes sur la ligne décidée par le président d'Erdogan. Il est venu parler aux journalistes qui se trouvent ici, juste en périphérie de cette ville de Ras El Ain, pour leur dire qu'il n'allait pas changer d'avis et qu'il maintenait l'objectif de création de ce corridor de sécurité de 30 km à l'intérieur des terres syriennes.
Merci à vous Mathieu Mondeloni et Marc Garvenès, à vos côtés pour la technique. La Ligue arabe se réunit aujourd'hui au Caire à la demande de l'Égypte, demande formulée mercredi dernier. Les observateurs politiques tunisiens s'accordent à dire que le débat télévisé d'hier soir entre les deux finalistes de la présidentielle, dont le second tour aura lieu demain dimanche, était de bonne facture, échange courtois mais ferme et point d'évitement sur les questions de fond entre l'homme d'affaires et des médias, Nabil Karoui, et l'universitaire Kais Saïd. Après l'élimination de leur candidat au premier tour, les islamistes d'Ennahda ont choisi de soutenir le juriste Kais Saïd, une personnalité qu'ils qualifient volontiers d'intègre et qui surtout partage leurs valeurs conservatrices de la société. À Tunis, Christian Chesneau.
Pour ce deuxième tour de la présidentielle, les islamistes d'Ennahda ont décidé de soutenir Kais Saïd, un juriste terne et austère, favori du scrutin. Saïd Aounissi, jeune député, suivra la consigne de vote décidée par les vieux caciques du parti.
Cet appel-là, je dirais qu'il est même plus qu'un simple appel, puisque nous nous sommes engagés ces derniers jours en soutien à la campagne sur le terrain, un appel très clair aux membres d'Ennahda et de diriger ce vote-là vers Kais Saïd.
Kaïd Sayed est proche des valeurs morales conservatrices défendues par les islamistes d'Ennahda. Pas question pour Saïda Ounissi de voter pour Nabil Karoui, homme d'affaires sulfureux et controversé.
Je crois que Qalb Tounes, quand on voit son parti donc au cœur de la Tunisie, quand on voit aujourd'hui qui est présent dans ce parti-là, des gens qui sont accusés de corruption, des gens qui ont des affaires au pôle financier. Donc je crois qu'il y a très peu de valeurs avec lesquelles nous pouvons nous rejoindre.
Pour autant, le match de la présidentielle est-il déjà joué selon elle ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense absolument pas. Et je crois que, comme au premier tour, comme aux élections législatives, tout va se décider dimanche.
Christian Chesneau avec Laurent Macchietti à Tunis. Au lendemain de l'annonce de l'arrestation en Écosse d'un homme identifié comme étant Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué 4 membres de sa famille en avril 2011 à Nantes et en cavale donc depuis plus de 8 ans, le doute s'épaissit sur la véritable identité de l'homme appréhendé à l'aéroport de Glasgow. La police écossaise commence à prendre la mesure de l'ampleur de l'affaire. Cécilie Corso est à Glasgow.
Oui, c'est une situation un peu invraisemblable ce matin pour la police écossaise qui se réveille bombardée de coups de téléphone de médias français. Ils commencent à peine à réaliser l'ampleur de la situation. Il faut dire que Xavier Dupont de Ligonnès était jusqu'à hier un nom totalement inconnu de la police locale. Il reste donc très prudent. D'ailleurs, leur déclaration d'hier était plutôt vague. Une arrestation confirmée, oui, mais pas de nom, pas d'âge, pas de détails. La seule information qu'ils sont prêts à nous donner pour le moment, c'est que la personne arrêtée était placée sous mandat d'arrêt européen. Le procureur de Nantes, Pierre Sénès, lui aussi, appelle à la prudence. Des vérifications sur l'identification de l'homme interpellé sont en cours, selon lui. Les enquêteurs de la police judiciaire de Nantes et de la Brigade nationale de recherche des fugitifs sont attendus à Glasgow dans les heures qui viennent.
Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Mathieu Laurent.
Benoît, vous assurez la rédaction en chef des éditions du week-end. Nous avons décidé hier soir de faire état de cette arrestation sans faire usage du conditionnel jusqu'à faire montre d'un peu plus de prudence dans les éditions du matin avec vous. Il est bon de se questionner sur la manière qu'on a eu de procéder.
Oui, alors le journalisme sait faire des choix, hein, Mathieu, on fait ça en permanence. C'est aussi bien sûr vérifier ses informations, les croiser, c'est douter, c'est aussi travailler en toute transparence et puis avec des sources sûres aussi. On va y revenir. Je vous propose de regarder un peu ce qui s'est passé hier, de revenir sur le déroulé des faits hier soir et sur la façon dont les informations nous sont parvenues.
Oui, ça nous est parvenu par des canaux traditionnels, des canaux que l'on emprunte régulièrement.
Voilà, et avec le journal Le Parisien au début qui le premier publie l'information de cette arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès sans employé de conditionnel. Suivent les premières dépêches d'agences de presse adressées à l'ensemble des médias abonnés. Elles sont tombées peu avant 21h. La toute première, c'est Reuters qui alerte simplement sur le scoop du Parisien. Mais très vite, ces dépêches laissent le conditionnel de côté, notamment en raison des sources qui sont données. Elles viennent de la police de Glasgow, des sources donc officiel, on voit indiqué sur les dépêches, source proche, enquête, ou police anglaise, 21h09, l'agence France Presse publie, selon la police anglaise, les empreintes de l'homme arrêté hier correspondent à celles de Xavier de Ligonnès. Il y a aussi des sources françaises proches de l'enquête qui sont
alors
citées.
Oui, Benoît Bouscarel, on voit bien que là on est face à un procédé régulier, récurrent en termes d'appréciation journalistique, mais l'affaire en elle-même n'explique-t-elle pas, enfin la nature même de l'affaire, cette accélération dont on essaie de comprendre les ressorts là?
Bien sûr, bien sûr. Ce qui est intéressant, Mathieu, avant de venir là-dessus, l'agence Reuters simplement continue à sourcer sur les médias mais n'emploie toujours pas le conditionnel. Est-ce qu'il faut bien sourcer ou employer le conditionnel? Quelle est la bonne condition pour faire du bon journalisme? 21h42, autre dépêche, c'est la police écossaise cette fois qui est sourcée par l'AFP, expliquant qu'un homme a été arrêté à son arrivée à Glasgow, il a été contrôlé et selon la police écossaise, ses empreintes correspondent à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est un matériau avec lequel on travaille habituellement, Mathieu. C'est
assurément,
ce matériau que nous avons fait le choix effectivement d'ouvrir le journal de 22h sur cette information que nous ne pouvions pas laisser de côté. Elle concerne une affaire judiciaire
hors norme en
France. C'est un matériau habituel pour nous et crédible. Il faudra peut-être, si cet homme n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on continue à douter, qu'on continue à faire notre métier.
C'est bien entendu. Merci de vos précisions et de votre dégagement, Benoît Bouscarel. La vérité sur la catastrophe de l'incendie de Lubrizol il y a 2 semaines, c'est ce qu'ambitionne l'association syndicat et partis politiques qui appellent à manifester cet après-midi à Rouen. Quelle place laisser aux respirations urbaines? Justement, c'est l'une des questions posées par le projet d'agrandissement et de rénovation de la gare du Nord à Paris. La Commission nationale d'aménagement commercial a donné son feu vert hier. Ce projet gigantesque fait la place belle, une salle de spectacle, des bureaux, une salle de sport ou encore des équipements. C'est un peu trop pour la mairie de Paris. Une vingtaine d'architectes et d'historiens de renom, Jean Nouvel, Dominique Perrault, Patrick Bouchain, s'opposent à ce projet qui nie à leurs yeux les urgences environnementales. Vianney Smarfowski.
La ville de Paris ne s'oppose pas à une rénovation de la gare du Nord, mais elle est déterminée à ne pas laisser passer le projet actuel parce qu'il ne répond pas aux enjeux environnementaux, selon elle, ni aux attentes des voyageurs et des habitants. Pour Alexandra Cordebar, la maire du 10e arrondissement, ce projet favorise les commerces au détriment des usagers.
Ce projet ne répond à aucun besoin du territoire et générera des nécessités d'approvisionnement beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des circulations de camions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, alors même que nous aurions pu imaginer que sur un projet de rénovation de la gare pour les 50 années à venir, nous aurions au moins une proposition de transport par le rail. Il n'en est aucunement question dans le projet. Ensuite, sur l'aspect même de la gare, il y a une question également de préservation du patrimoine, notamment la halle du Tilleul disparaît complètement dans ce projet.
La ville de Paris et les architectes opposés au projet estiment aussi que les accès aux trains seront plus compliqués. C'est faux, répondent les porteurs du projet. Il y a urgence à désengorger la gare, indique Guillaume Pépi, le président sortant de la SNCF. La rénovation de la gare du Nord est nécessaire pour répondre aux besoins des plus de 700 000 personnes qui la fréquentent tous les jours. Ça, c'est ce que pense Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport. Les prévisions parlent de 900 000 voyageurs par jour dans 10 ans. Le projet prévoit 88 000 mètres carrés de surface supplémentaire, dont plus de 16 300 consacrés au commerce. Et puis des passerelles aussi pour accéder aux trains. Un flux pour les départs, un autre pour les arrivées. Et ça, ça ne plaît pas aux architectes frondeurs. Ça dénature le patrimoine, selon eux. La mairie de Paris souhaite poursuivre les négociations et proposera dès la semaine prochaine de nouvelles idées et n'exclut pas de déposer un recours si le dialogue ne permet pas de modifier ce projet.
Vianney Smiarski.
La bulle économique, Marie Vienno.
Et Marie Vienno nous entretient ce samedi de la taxation des multinationales avec cette question centrale: va-t-on vers une révolution fiscale?
I think that people are fed up with discussions.
Je pense que les gens sont fatigués de ces rencontres au sommet, répondait Bruno Le Maire à des journalistes américains à l'occasion de la réunion des ministres des Finances du G7 l'été dernier. Au menu ce jour-là, un sujet à 500 milliards de dollars ou 600 selon le FMI ou entre 100 et 240 selon l'OCDE. En fait, on ne sait pas bien, puisqu'il s'agit des montants détournés par les multinationales chaque année grâce à l'optimisation fiscale. Faute d'accord dans l'Union européenne, la France a décidé d'imposer seule une taxe sur le numérique, mais elle espère toujours une solution mondiale.
I'm ready to wait, but not to wait for the eternity.
Notre ministre des Finances est prêt à attendre, mais pas une éternité, dit-il. Quatre mois plus tard, ça y est, ça avance, l'OCDE a mis cette semaine un projet sur la table. La moitié du projet final, pour être précis, l'autre moitié sera exposée plus tard. Alors va-t-on vers une révolution fiscale internationale? La réponse est un peu oui, mais non. Oui dans l'approche, non dans le résultat, si toutefois on en arrive jusque-là.
L'OCDE aide à construire ce monde.
L'OCDE a été créée il y a 60 ans. Elle est financée par ses 44 pays membres, les pays les plus avancés de la planète. Mais sur ces questions fiscales, elle travaille avec 134 pays et juridictions. Même les îles Caïmans et d'autres paradis fiscaux notoires sont de la partie. Il y a aussi des pays émergents, Chine, Inde, Brésil, des pays en développement ou encore low income country, pays à bas revenus, le Congo, la Sierra Leone, le Libéria. Pour les pays pauvres au sous-sol riche que je viens de citer, l'évasion fiscale est un vieux problème. Les ONG d'aide au développement sonnent l'alerte depuis la fin des années 80, mais elles étaient inaudibles au Nord, où l'on s'inquiétait surtout de voir les multinationales taxées deux fois avec la mondialisation. L'OCDE luttait alors contre la double imposition. Aujourd'hui, l'OCDE se préoccupe de la double non-imposition, le zéro impôt. Ça, c'est une révolution dans l'état d'esprit. Et ce virage à 180 degrés qui n'est pas nouveau, il est dû au numérique, la crise et les révélations en cascade. Aujourd'hui, les États riches, comme les pauvres, réalisent qu'ils se font voler leurs impôts. L'exaspération fiscale gronde, alors oui, l'évasion fiscale, c'est aussi devenu leur problème. Sur les 600 milliards du FMI, ils pourraient récupérer 400 milliards. Les pays pauvres, 200, c'est dit en passant plus que le montant mondial de l'aide au développement. Mais comment répartir cette richesse perdue? Selon quels critères? Aujourd'hui, il faut une présence physique pour être taxé dans un pays. Plus dans l'approche unifiée de l'OCDE, ça c'est nouveau et un brin révolutionnaire. Mais l'ancien système reste avec ses failles. On lui en superpose juste un nouveau en créant de nouveaux droits à taxer, dont les modalités les plus importantes d'ailleurs restent à négocier. Autant dire que rien n'est fait et que rien n'est plus simple. Cela comble quelques trous dans la raquette, notamment pour le numérique, mais toutes les failles dans lesquelles s'engouffrent les optimisateurs fiscaux ne sont pas comblées. Ces failles, elles sont aussi nombreuses que le nombre de filiales et entités créées par les multinationales pour se vendre à elles-mêmes leurs marques, leurs algorithmes, se faire des prêts, se transférer des royalties, bref, tout ce système de transfert intra-groupe d'une complexité folle, ce paradis à conseiller fiscal, ce système-là n'est pas remis en cause dans l'approche de l'OCDE. La révolution fiscale internationale est-elle possible si elle reste sur les mêmes bases et à la merci des mêmes experts ? Eux resteront gagnants, c'est une certitude. Les ONG sont déçues du projet de l'OCDE que l'une d'elles réduit à de nouveaux pneus dans la même vieille voiture. À ces critiques, l'OCDE répond qu'il vaut mieux des changements graduels et complexes plutôt que rien. Les États ne sont pas ouverts à un Big Bang fiscal. Difficile de faire la révolution sans révolutionnaire.
Ainsi se referme cette bulle éco. Quelques mots de la météo de l'après-midi, pluie et orage dans le Loiret et la Loire, de légères averses sur les pointes normandes et bretonnes, partout ailleurs un ciel voilé. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue à la technique Pierrick Monsigny.